Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler art. C'est le chemin des ateliers qui fête ses 20 ans. Ce sera en seconde partie d'émission. Ils sont parmi nous pour vous donner tous les détails. Mais d'abord, on va parler musique puisqu'on a avec nous le directeur et fondateur du label Microculture Records. Bonjour Jean-Charles Dufeu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, puisque la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de soutenir les labels de musique indépendants. Peut-être qu'on peut revenir déjà sur un petit peu l'histoire de Microculture. Ça date maintenant.
Oui, ça date un petit peu. Il va falloir que je plonge dans mes mémoires. Mais Microculture a été créée en 2010, initialement à Paris. En fait, à l'époque, j'habitais à Paris et je gérais donc le label de là-bas et on a déménagé en 2016 à Poitiers et depuis effectivement je bénéficie de cette aide assez bienvenue de la part de la région, mais voilà, dans les grandes lignes, en fait, le label existe depuis maintenant un peu plus de 15 ans, même si j'ai du mal à me faire à cette longévité.
Et comment on pourrait décrire un petit peu la ligne directrice de ce label?
Alors c'est vraiment un label qui fait la part belle, je pense, au songwriting, quelque chose d'assez épuré. Enfin, pour avoir une logique d'entonnoir, on est vraiment dans les musiques actuelles, enfin ce qu'on appelle les musiques actuelles dans l'industrie de la musique, avec une couleur plutôt pop et même folk, avec vraiment une tendance aux choses, aux mélodies plutôt acoustiques, intimistes. Et depuis quelques années, il y a un petit tournant qui s'est opéré, enfin qui n'est pas forcément volontaire, mais les choses se sont faites un peu comme ça au gré des rencontres et des sollicitations, opportunités, etc. Il y a un petit tournant qui s'est opéré vers de la musique et de la chanson plus francophone, pas forcément chanson française au sens classique du terme, mais en tout cas, une musique toujours inspirée du folk et de choses assez pop, 60s, 70s, mais avec une orientation francophone.
Là, vous avez reçu 6 000 euros au titre de l'aide au programme éditorial. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour un label comme le vôtre?
C'est une aide qui est vraiment bienvenue, comme je le disais, pour pouvoir aller au bout de certains projets de production qui sont malheureusement par essence assez fragiles, parce qu'on est quand même dans une esthétique qui ne va pas forcément s'adresser à des millions de personnes qui vont acheter ou consommer la musique en streaming. Donc on est sur des économies assez fragiles, donc cette aide-là nous permet d'équilibrer des budgets qui sont souvent assez qui sont pas forcément évidents à équilibrer. Donc voilà, ça c'est un peu une garantie de pouvoir aller jusqu'au bout de certains projets qui sans doute seraient que j'aborderais sûrement avec une prudence autre si je n'avais pas cette aide-là, disons.
Et alors justement, aujourd'hui, être un label indépendant, comment se porte le marché, entre guillemets? Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à quand vous l'avez créé en 2010?
La grande chance que j'ai, c'est qu'en 2010, c'était déjà la crise. Donc depuis, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Mais disons que la crise de la musique, c'est quand même quelque chose qui est... Au moment où j'ai monté le label en 2010, en tout cas, il n'y avait pas vraiment de tromperie sur la marchandise. On savait déjà dans quoi on mettait les pieds en fondant un label dans une industrie en plus de la filière indépendante. Les choses ont un peu changé depuis. Le streaming a pris quand même une place de plus en plus importante, mais qui ne compense pas forcément les pertes de revenus de la musique enregistrée disponible en disque. Donc on est un peu dans une zone grise, un peu de transition qui risque de durer encore quelques années, je pense. Et ça nous oblige, nous, enfin gérants de labels et de petites structures comme ça, à essayer de nous adapter tout le temps, à essayer de trouver des solutions, à essayer de diversifier peut-être les sources de revenus, compenser les ventes par autre chose. Certains lancent des activités de booking ou d'édition. Nous, on fait pas mal de services et d'accompagnement aux artistes. On est obligé un peu de, pas forcément de réinventer le modèle tous les ans, mais en tout cas de suivre de près l'évolution du marché et de l'industrie pour essayer trouver des solutions pérennes.
Parce que pour des artistes indépendants, aujourd'hui, le streaming n'est pas assez rémunérateur en réalité.
Pour des artistes indépendants, non. Vraiment, je pense que c'est assez rémunérateur pour des très gros artistes, mais là, ça se compte en millions de streams, et c'est quand même des chiffres que les artistes indépendants ne peuvent pas atteindre, à moins vraiment d'investir énormément en marketing numérique, mais du coup, c'est pas forcément une opération financière très valable.
Un label comme Microculture, c'est combien d'artistes accompagnés chaque année ?
En fait, on distingue la partie production avec laquelle on va accompagner, on va dire, entre 4 et 5 artistes, enfin une poignée d'artistes chaque année, pour lesquels donc, on va être dans une logique d'accompagnement un peu long terme, qui comprend la recherche de financement, l'accompagnement en studio, la gestion de projet pour aller construire un budget, et puis voilà, on va être vraiment dans une logique d'accompagnement un peu A à Z, de la rémunération des musiciens jusqu'à la sortie du disque, et en passant par la promotion, la distribution. Et en fait, on fait aussi tout ça dans une optique de prestation ou d'agence pour des artistes indépendants qui cherchent des solutions, qui souvent n'ont pas le réseau ou le savoir-faire ou l'expérience ou les compétences ou le temps ou l'envie de gérer des choses administratives et parfois un peu complexes. Et là, on accompagne, on va dire, peut-être une petite cinquantaine d'artistes par an, mais sur des activités qui sont similaires, mais sur un temps d'accompagnement qui peut être plus ou moins long. Ça peut être quelques semaines à plusieurs mois en fonction des projets.
Et vous disiez, là, cette aide que vous recevez, qui va vous permettre peut-être d'approfondir certains accompagnements, ou est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un projet peut-être qui pourra bénéficier de ce soutien ?
Oui, bah d'autant plus que c'est une aide qui est fléchée en fait, vers certains projets très concrets. En fait, en l'occurrence, on a identifié 3 projets pour lesquels cette aide va être utilisée. Il y a un disque d'un chanteur-compositeur de Montreuil, en région parisienne, qui s'appelle Manuel Bienvenu, qui est déjà sorti il y a quelques mois et pour lequel cette aide est fléchée et qui va nous permettre de financer un peu des compléments, de promo, d'aide à la tournée, etc. Il y a un autre disque qui est prévu pour un plus vieux groupe français un peu emblématique des années 90 qui s'appelle toujours d'ailleurs Autour de Lucie et qui revient cette année avec un disque qu'on espère sortir en novembre. Et puis un troisième album est dans les tuyaux pour un songwriter anglais qui s'appelle John Cunningham et dont on a sorti déjà un album, le précédent album, et qui est également prévu pour la fin de l'année si on n'a pas de retard opérationnel le concernant.
Et alors vous disiez, le label est né en région parisienne, et vous êtes maintenant à Poitiers, vous avez soutien de la région, comment est la filière dans la région Nouvelle-Aquitaine par rapport à la région parisienne où à mon avis ça fourmille beaucoup plus, comment c'est en région Nouvelle-Aquitaine ?
Ça fourmille beaucoup plus sans doute en région parisienne, mais paradoxalement moi je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait de créer un maillage, de penser en termes de partenariats, de rencontres, et les choses sont de mon point de vue assez fluidifiées, on va dire, depuis qu'on est à Poitiers. En fait c'est pour une raison simple, j'imagine, c'est que y a moins d'acteurs, mais du coup les acteurs sont aussi plus accessibles. Il y a peut-être plus une logique d'entraide, de solidarité, de partage de compétences. Donc c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé assez frappant en arrivant ici. Alors qu'à Paris, effectivement, il y a un fourmillement d'acteurs. Il y a un petit côté aussi un peu effrayant, un peu jungle, un petit peu concurrence échevelée, même si les choses ne sont pas forcément dites comme ça. Donc il y a une forme de douceur, je trouve, comparativement, en tout cas à Paris, du fait de se retrouver à Poitiers, qui est à la fois une petite ville, entre guillemets, mais où je trouve on a quand même de la chance d'être plutôt... où il y a des dispositifs qui... en tout cas, qui, nous, pour les labels indépendants, sont assez bénéfiques et auxquels moi, je ne m'attendais pas du tout, dont cette aide de la région, par exemple, qui était quand même une bonne surprise en 2016.
Et donc Radio Pulsar fait par exemple partie du réseau des indépendants de la musique qui, oui. en région Nouvelle-Aquitaine. Comment vous voyez alors l'avenir de la musique indépendante? Comment faire un peu sa place par rapport aux grosses têtes d'affiche, dirons-nous?
Bah, c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse en 30 secondes et probablement je ne pourrais pas le faire non plus en 2 heures. C'est très compliqué effectivement d'avoir la réponse à cette question, mais qui se pose bien sûr et qu'on est obligé de se poser. Je pense que, la bonne nouvelle c'est que je crois qu'en 2025 les gens n'ont jamais autant écouté de musique qu'aujourd'hui. La mauvaise pour nous, producteurs de musique, c'est qu'effectivement, il y a une telle offre et une telle dilution que c'est très, très dur de tirer son épingle du jeu et de se faire entendre au sens vraiment propre du terme. Maintenant, je pense que ce qui finit par payer, c'est la sincérité, une forme de la passion, en fait, qui vont aussi... Qui se transforme en longévité, en l'occurrence pour nous et pour aussi certains artistes qu'on accompagne et qui ne vont pas forcément s'arrêter au premier obstacle ou même au premier échec commercial, qui vont continuer, trouver des solutions, s'adapter, essayer de proposer des choses innovantes. Bon, et ça, en fait, je dirais qu'il n'y a pas forcément de recette miracle et ça dépend vraiment des projets individuellement. Mais en tout cas, moi, je crois vraiment au maître mot qui est la sincérité en musique, comme en beaucoup de choses. Mais en musique, je pense que c'est vraiment essentiel. Au-delà d'avoir une stratégie marketing ou une vision qu'on pense hyper efficace, je pense que ce qui finit toujours par payer, c'est l'adéquation avec son propre, sa création artistique.
Merci beaucoup Jean-Charles Dufeu. Donc vous êtes directeur du label Microculture Records et on va se quitter avec ce titre Combini de Manuel Bienvenu, si vous voulez le présenter, puisque ça fait partie de ceux qui vont bénéficier de l'aide de la région.
Oui, tout à fait. Bah oui, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, mais alors Combini, avec Manuel Bienvenu, on est sur une facette toujours pop, mais avec un versant un peu jazz, qui n'est pas spécialement notre habitude. Mais voilà, c'est une pop très sophistiquée, assez moderne, avec vraiment une énorme influence jazz. Et puis c'est un musicien assez érudit, qui est très influencé aussi par des artistes anglais de la scène Canterbury, etc. Donc une pop de chambre assez particulière et voilà, avec un petit côté hypnotique. Enfin, en tout cas, vous verrez, mais... Bonne écoute.
On écoute ça tout de suite. C'est Combini de Manuel Bienvenu, donc de son dernier album.
Sometimes snow in the middle of the ocean.
Et on reçoit maintenant Alain, alias Toc Toc, Alain Coulon et Joël Garriga, qui sont coordinateurs du Chemin des Ateliers. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et vous êtes accompagnés de Amandine Alamichel, l'une des participantes de cette saison. Bonjour.
Bonjour.
Ah, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler du Chemin des Ateliers. Alors peut-être revenir un petit peu sur comment est né ce Chemin des Ateliers. C'était il y a 20 ans déjà.
Il y a 20 ans. Et l'histoire est un peu particulière parce que ce sont quelques artistes locaux, notamment Vera Matignon, Marianne Brixman, Bonhomme. Ça, ce sont des artistes locaux qui ont eu l'idée de créer cette aventure. Au départ, bien entendu, avec 3-4 ateliers ouverts. Et puis, chemin des ateliers faisant, les choses se sont étoffées en passant très rapidement, assez rapidement d'ailleurs, parce qu'en 20 ans, on est passé quasiment à 38 ateliers ouverts sur toute la Vienne, pas que sur Poitiers.
Voilà. Oui, c'est toute la Vienne, effectivement. Quelle était l'envie au départ de ces artistes et aujourd'hui encore, qu'est-ce qui les motive à ouvrir leurs ateliers ?
Amandine, qu'est-ce qui te motive, toi ?
Eh bien, il y a ce côté d'échange. Je présentais un petit peu les travaux qu'on fait. Il y a vraiment cette idée d'accueillir un peu tout public chez nous. Ça permet de rencontrer vraiment et puis de proposer l'art un petit peu à tout le monde. Voilà.
Et vous, en tant que coordinateur, j'imagine que vous avez rencontré de plus en plus d'artistes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous aussi, et aux artistes qui ont participé ?
C'est très riche. C'est vraiment de l'échange humain, effectivement, que ce soit entre artistes, que ce soit avec les structures qui nous accueillent, parce que chaque vernissage se passe à chaque fois dans un lieu différent, et que ce soit avec le public. Donc moi, je suis très, très content de cette générosité humaine.
Dans la mesure où on n'est pas une association, on est un collectif d'artistes, et ça crée une richesse, ça crée aussi des contraintes, c'est pas toujours simple, mais ça aussi, ça permet à chaque artiste de pouvoir exprimer, partager et surtout échanger sur ses pratiques et créer du lien et du relationnel. Dans ce milieu-là où beaucoup d'artistes souvent sont un peu seuls quelque part,
En fonction de
sa pratique, de son thème de travail. Et ça permet vraiment, tout au long de l'année, parce que le chemin se prépare tout au long de l'année, et ça permet vraiment de créer ce lien à la fois artistique, mais aussi, nous on y tient beaucoup, avec Toc on en a beaucoup parlé, ce lien humain, de relation humaine entre nous, bien sûr avec le public.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. En tant qu'artiste, il y a des moments peut-être où on se sent un peu seul dans son travail. Là, ça permet aussi de s'ouvrir aux autres, à ce que font les autres.
Oui, exactement, ouais. Et puis, il y a un côté rendez-vous aussi avec le chemin des ateliers. On a maintenant commencé à avoir un peu l'habitude. Moi, ça fait 10 ans que j'y participe. Et il y a vraiment ce rendez-vous un peu particulier entre nous, voilà, qui est très agréable.
Alors, le vernissage, c'est ce soir, 18h30. Et vous avez voulu mettre en avant une association aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, tous les ans, notre vernissage nous permet, nous, de nous rassembler, puisque sinon, pendant le week-end, on est dispatché dans nos ateliers. Donc, pendant ce week-end, pendant ce mardi qui précède le week-end, on est les 80 ou 100 artistes tous ensemble. Chacun fournit 3 à 4 petits formats, en gros 10-15, qui sont vendus à 10 euros au bénéfice d'une association. Donc cette année, c'est la SAV, association pour aider les malvoyants et les handicapés moteurs. Chaque année, il y a un bénéficiaire caritatif différent. Ça a été les Moujas, ça a été les femmes de l'avenue de la Libération, ça a été 100 pour 1.
Ça a été Pulsar.
Mine de rien.
Ça a été Pulsar au moment difficile.
Et donc voilà, ce soir, la SAV sera sur les lieux. En gros, en vendant ces petits formats, on réussit à faire autour de 2500 euros, ce qui va leur permettre, eux, d'acheter une table de showdown. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle abusivement le ping-pong pour aveugles. C'est une espèce de table de ping-pong, mais avec des retours sur les côtés. Et on se renvoie un palais. Et ils ont déjà organisé des championnats nationaux. Ils voudraient passer au stade international. Ils avaient besoin de deux tables en plus. Comme tout le monde a des budgets qui sont restreints, voilà, on leur permet au moins d'acheter une table.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir lors de cette 20e édition du Chemin des Ateliers? Alors, des arts vraiment très variés, c'est aussi l'objectif?
Alors déjà, il y a le choix, parce qu'on est plus d'une centaine là, sur cette... ce week-end, et du coup, il y a des artistes plasticiens, des peintres, des sculpteurs. Oui, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des bijoutiers, de la gravure,
de la mosaïque, d'art aussi.
C'est des arts visuels, de manière générale.
Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler à chacun de votre art? Qui commence?
Alors, justement, moi, je ne crée pas dans une tour d'ivoire, puisqu'on crée à deux avec ma compagne. Donc sur un tableau, on se partage 50-50 la surface, on se trouve une idée de départ, et donc déjà nous, on peut sortir de ça. On crée la même œuvre, mais sans voir ce que fait l'autre. On a un fil conducteur qui peut être, je sais pas, la Joconde, un paysage, mais chacun fait son interprétation, et on a le moment magique où on dévoile, et on voit cette œuvre commune, et là c'est terrible.
Donc vous faites des surprises à vous-même en tant qu'artiste?
C'est un jeu pour moi, là.
Alors, Amandine. Ouais.
Alors, moi, je suis illustratrice au départ. Hein, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était pré-cinéma. Donc, objets animés avant l'invention du cinéma, quand ils ont compris, en fait, qu'on pouvait animer des dessins. Et du coup, en l'occurrence, moi, j'ai animé des petites statuettes. Voilà. Et puis, récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'animaux fantastiques dans le Poitou qui étaient complètement inconnus. Donc là, on aura sur cette session des carnets d'observation naturalistes fantastiques. Voilà.
Et Joël?
Et moi, je suis un artiste peintre, un peintre un peu classique, avec une approche fauve. Et puis aussi une approche en limite du réalisme et puis de l'abstraction.
Et peut-être une dernière question, comment vous vous êtes préparés les uns les autres à accueillir des gens, parce que ce n'est pas quelque chose que vous faites tous les jours. Comment on se prépare à ça?
Eh bien, tout dépend du comment ça se passe. Il y a Poitiers et il y a la périphérie, il y a la campagne. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis à la campagne, je suis à Itteuil. Et l'objectif, c'est que le public, on attire le public d'une façon ou d'une autre, et pour le pouvoir l'attirer, nous on a décidé de faire des pôles, de rassembler, nous serons 10 artistes dans un même lieu où on peut poser la voiture et puis butiner dans le hameau avec des personnes qui nous accueillent, des habitants qui nous accueillent chez eux. Il y a aussi des ateliers fixe, bien entendu. Et donc, ça permet aussi de créer une dynamique entre des pôles assez proche de façon à permettre au public de... C'est compliqué hein, de prendre sa voiture tout
oui,
le temps.
Oui, de ne pas faire trop de route.
Et bah, voilà, donc, faut, voilà, c'est notre principe.
Amandine Alain-Michel, comment vous allez les accueillir?
Alors, moi, j'accueille dans ma maison. J'ai j'ai accueilli qu'une seule personne, donc Atelier Nouchka. Moi, c'est la première fois que j'ouvre vraiment chez moi, parce qu'avant, je l'ai fait à l'époque dans un atelier, on était 8. Et donc là, j'ouvre à Ligugé, donc c'est sur la route de Poitiers. Si vous vous passez, il y a Saint-Benoît aussi. Voilà. Vous pouvez faire Saint-Benoît, Ligugé, Iteuil. Voilà. Ou à l'inverse, pour aller sur Poitiers, si vous êtes... voilà, vous pouvez remonter.
Et toc toc.
Eh bien, plutôt que de parler de ce qu'on va vous montrer, je vais parler de l'Igloo, qui est rue des Quatre Roues, où on a deux peintres malvoyants, entre autres, ils sont 5 dans cet atelier-là. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que peuvent pondre des malvoyants. Ils font chacun des choses très différentes, comment on peut se débrouiller avec son handicap. Et puis, je voudrais rajouter, si c'est possible... dans le programme de ce soir, il faut vraiment venir ce soir à partir de 18h30 jusqu'à 23h, parce qu'en plus de ces jeux handisports, nous avons deux concerts, l'un du trio Vrac, musique poitevine, enfin poitevine parce qu'elle est produite à Poitiers, c'est du jazz rock festif, et DJ Corto, on a Fred Abrashkov qui est bien connu, qui va raconter des bêtises, on a plein d'autres surprises, ça va être la grosse fiesta ce soir, faut pas louper ça, c'est dans Montier-Neuf, 4 rue Grignon de Montfort, venez tous.
Donc au réservoir, 18h30 ce soir, et ensuite pendant tout le week-end, 13, 14, 15 juin, vous pouvez faire ce chemin des ateliers. C'est libre, c'est gratuit. 38 ateliers ouverts, 109 artistes à découvrir à Poitiers et ses alentours. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci Anaïs.
Merci.
Et on continue avec notre agenda qui est présenté par Rachel.
Bonjour à tous. Tout d'abord, la conférence sur le Festival d'Art Sacré. Une réunion pour présenter toutes les activités qui auront lieu pendant ce festival du samedi 4 au dimanche 12 octobre 2025. Exposition de crèches, exposition d'artisans, ou encore concerts, conférences ou même de la danse, cette réunion sera dans l'auditorium du musée Sainte-Croix à 14h. Puis l'exposition son Jouer avec les ondes, qui propose une immersion ludique pour expérimenter les principes fondamentaux du son, ressentir les vibrations, jouer avec les fréquences et comprendre la propagation des ondes. Des bruits de la ville aux mélodies de la nature, en passant par les instruments de musique, venez vivre une expérience sensorielle unique et partez à la découverte du fonctionnement de l'oreille humaine. Ça se déroule à 14h à l'espace Mendes France. Direction maintenant le Dietrich avec la Diète Trouvaille et le film Let's Get Lost, le documentaire mythique sur Chick Baker de Bruce Weber, l'un des plus grands photographes contemporains, revient sur grand écran dans une nouvelle version restaurée qui sublime les images en noir et blanc de l'enfant terrible du jazz. Une occasion unique de se plonger dans la vie du célèbre trompettiste. La séance commence à 16h. Et toujours côté cinéma, mais cette fois au Tape Castille, le documentaire La Terre des Vertus de Vincent Lapize. Les jardins ouvriers des Vertus à l'Aubervilliers sont une parenthèse de nature au milieu de la concentration urbaine. Depuis des années, des habitants et habitantes y cultivent leur potager, tissent des liens, gardent contact avec le vivant. Cet îlot collectif est menacé par la construction d'un solarium et d'une piscine d'entraînement pour les JO 2024 et par le développement du Grand Paris. Face à la violence des tractopelles, les jardiniers et jardinières en lutte inventent un laboratoire du commun, un havre de pensée, un territoire libéré. La séance commence à 14h.
Merci beaucoup Rachel, on te retrouve dès demain 8h pour Espace Matin. Demain, dans Séquence Midi, on recevra le collectif Médiation Grand Poitiers qui vient d'inaugurer ses nouveaux locaux. On recevra aussi François Jérôme et Karine Vigier, ce sont tous les deux des chercheurs puisqu'ils proposent de vous inviter dans un bar pour découvrir leurs recherches. Et bien sûr, vous aurez rendez-vous avec le cinéma comme tous les mercredis. Sur Pulsar à 18h, c'est Alasso qui reçoit donc à l'assaut, c'est l'émission présentée par La Fève. Ce soir, leur invité, c'est Equinox, donc pour parler prévention contre les addictions en milieu festif. À 19h, c'est votre émission de slam, de discussion, de parole, de poésie. C'est Slam à tout va, bien sûr. On part ensuite en Asie à 20h avec Pétale de Sakura. À 21h, c'est Culture Dub. Il y aura toujours, comme d'habitude, des albums, des t-shirts à gagner et puis toute l'actualité du dub. Et à 23h, c'est Novorama. Merci beaucoup Papa Cortex et Solène pour la réalisation technique de cette émission. On se retrouve donc demain 12h30 pour une émission Séquence Midi. Bon après-midi en musique, à demain.